on en jase. À Boulevard 102.1.
Mais j'avoue que mettre des gants blancs pour ce genre d'exercice, c'est une idée qui ne me viendrait pas.
Jusqu'à 14h, on en jase.
Et oui, votre nouvelle émission du midi, on en jase le midi avec Jeff Fortin et Pascal CV. On va avoir bien du bonheur à vous informer dans un ton bien léger où on va avoir du fun aussi parce que faut pas trop se prendre la tête. Le gouvernement nous fait déjà assez mal avec des scandales, Pascal CV. On commencera pas à être trop grognon, qu'est-ce que t'en penses?
On serra pas trop l'étau autour de votre tête. Le crâne va exploser sinon.
418-971-1021 pour réagir avec nous par texto. BLVD-1021, l'application sur App Store, Google Play Store, meilleure façon de nous écouter. Twitch.tv/BLVD-FM. Et également, on est disponible sur la web radio au BLVD.FM. Et quand je parle de 418-971-1021 pour nous rejoindre, David, merci pour ton opinion. Je mettrai le film d'Astérix par exprès, mais s'il passe à Ciné Cadeau, je vais en profiter pour éduquer mes filles sur le fait que même les acteurs plus sympathiques peuvent être, et là, il qualifie des vidanges. Honnêtement, j'adore ce point de vue-là de faire de l'éducation avec nos enfants.
Ça ouvre la discussion, finalement.
Oui, ça ouvre la discussion et ça leur permet justement d'en apprendre plus sur notre monde parce que malheureusement, ben, je dis malheureusement, c'est comme ça pour nos enfants. On pourra pas toujours, ils pourront pas toujours être dans un monde de Kalinours ou dans un monde de Watt.
Faut pas, parce que c'est de même que tu te forges une personnalité, des opinions, que tu es capable d'avoir la vérité sur ce qui se passe autour de toi. Là. Si on est tout le temps dans Watt, ben on vit pas d'épreuves, de défis, puis on n'a certainement pas à utiliser notre jugement.
Tu as tellement raison. Alors, bravo. Moi, je faisais à l'époque avec mes enfants, là, on a moins de temps de le faire, mais lorsqu'il y avait 10, 11 ans, on prenait chacun une tablette et je leur faisais lire l'actualité. Et on faisait des cours d'actualité avec les boys. Donc, j'ai dit, OK, qu'est-ce que tu comprends de cette nouvelle-là? Puis je leur expliquais. Alors, ça leur a permis rapidement de comprendre que malheureusement, il y avait de la guerre dans le monde, que c'était pas tout le monde qui s'aimait, puis qu'il était bien ici au Canada. Il était pas dans la bande de Gaza, ne plus avoir de maison. Donc, et puis, ben ça l'a éduqué mes gars là-dessus. Là, c'est mes gars maintenant qui me parlent de nouvelles, beaucoup de nouvelles de football, parce que la saison va commencer jeudi. Évidemment, on va en parler cette semaine. Mais me parlent de plein d'autres choses également. On s'en va rejoindre un chroniqueur que vous allez avoir avec nous à On en jase le midi deux fois par semaine, les mardis et jeudis, toutes les fois aux alentours de 13h. Il est le nouvel animateur de l'émission d'actualité à 18h sur le 99.5 à Montréal et l'émission de fin de semaine de 8h à 10h. Rémi Villemur, comment ça va mon ami?
Ah, ça va super bien, vous deux.
Ça va super bien. Rémi, premièrement, pas le choix de te féliciter pour ton nouveau défi professionnel. Je t'ai écouté cet été. J'ai vu à quel point tu étais pertinent et talentueux en ondes. Chapeau, mon ami, tu travailles fort. Ça paraît et c'est amplement mérité, cette belle promotion.
Ah, ben vous êtes gentil. Ça a été vraiment un été de fou. Puis là, on recommence. Puis là, j'ai pris une semaine de vacances. Puis je me demande, en fait, si ce sont des vacances. C'était pas vraiment des vacances. J'ai eu le temps de dormir quelques heures. Fait que là, on est reparti.
Ouais, c'est ça. Pascal, ça fait souvent ça. Hein? Quand on part en vacances, on est dans le rush avant. Puis on revient. Puis on est encore dans le rush. Fait que des fois, on se dit, coudonc, j'ai-tu bien fait de prendre des vacances, vierge?
C'est plus reposant d'être à la job.
Yes! Hey Rémi, avant de sauter dans ton sujet fort intéressant, l'intelligence artificielle, la création d'amis artificiels qui a mené à un meurtre, c'est à la une du New York Post. J'aimerais t'entendre sur le témoignage de François Legault à la Commission Galant.
Ben, on en a parlé il y a deux semaines, toi et moi, de cette commission d'enquête-là où on reçoit des témoins, des acteurs clés du milieu politique. Et on se demande à chaque fois si les individus sont coupables ou si ce n'est pas la machine, l'espèce de bestiole.
Ouais.
Puis je sais, tu n'étais pas d'accord avec moi, puis tu disais, regarde, tant mieux, on s'entendra pas.
Ah oui, je te disais, hey, un ministre, c'est imputable, ça a juste à prendre ses responsabilités.
Ah, puis je suis assez d'accord avec toi. Puis là, François Legault a terminé son témoignage vers midi 5, midi 6. Puis l'une des dernières choses qu'il a dites, parce qu'on lui a donné la parole, on lui a dit, y a-t-il quelque chose que vous voulez dire? Puis vous vous adressez en quelque sorte aux Québécois. Il a dit, ben, moi, je crois à un monde où les gens sont imputables. Donc, il va sans doute te faire plaisir en disant ça. Mais ça ne règle pas le problème de la machine. Parce que je regrette, mais j'écoutais François Legault ce matin et je me disais pas que quelqu'un d'autre à sa place aurait fait différemment. Lui, il disait « L'information ne monte pas jusqu'à moi. J'ai appris qu'il y avait un dépassement de coûts en février 2025. » Puis là, il a répété ça souvent. à un point tel que les deux, le commissaire puis le procureur en chef, disaient, oui, on la connaît, cette réponse-là. Tu sais, oui, OK, non, vous n'avez jamais entendu parler de ça avant février 2025, février 2025. Mais tu sais, les dépassements de coûts, c'était pourtant dans la revue de presse, parce qu'il y a une revue de presse au bureau du premier ministre. À chaque jour, il y a des gens dont le travail est de lire ce qui s'écrit sur toutes sortes de
Et
sujets
il
et
en
d'être.
prend connaissance, Rémi, de cette revue de presse. Ça, c'est ce qu'il a dit.
Ben, en fait, ce qu'il a dit, puis là, moi je le crois, là, mais c'est parce qu'il y a quand même, il faut quand même réformer certaines pratiques. Il dit tout ce qui se dit à la radio, moi, ça ne va pas jusque sur mon bureau. Ça, c'est quand même une belle petite claque dans la face qui nous rend à chacun de nous trois en ce moment.
Mais ça,
Il
c'est
dit.
surprenant, Rémi, parce qu'habituellement, il y a toujours des procès-verbaux de ce qui se passe partout, puis les gens qui travaillent pour lui l'amènent sur ça. Moi, si je dis François Legault, trois fois, même après une, ça vient d'être répertorié puis d'être écrit à quelque part que Pascal CV à Boulevard 102.1 vient de nommer François Legault et ils vont normalement regarder ce que j'ai dit par la suite. Pourquoi est-ce que la radio serait tombée là, de tout ça?
Moi, je ne pense pas qu'elle est tombée au même titre que je pense que. Parce que de toute façon, un peu plus tard, on lui a présenté des articles. Des articles, par exemple, du 98.5, parce que Cogeco produit de la nouvelle. Puis là, il disait, bon, ben ça, est-ce que vous le lisez? Il dit, ouais, mais ça, c'est de la radio. Il dit, ouais, mais est-ce que c'est un article? Est-ce que ça... Parce que là, on dit qu'il y a un dépassement de coût de 40 millions. Et là, il a dit quelque chose de très grave. Il a dit, ouais, je l'ai vu passer, cet article-là, avec le 39 millions. Mais 39 millions, vous savez, là. Pour nous, ce n'est pas tellement un dépassement de coût. C'est là que la machine est tellement grosse que 39 millions, ça ne sonne pas aucune cloche dans la tête d'un premier ministre. Ce n'est pas encore 100 millions, ce n'est pas encore 200 millions, ce n'est pas encore 300 millions, c'est juste 39 millions. Donc, le problème, c'est une machine qui. Il y a trop de gens dans ces machines-là. Le message se perd. Hein? Essayez de raconter un secret à quelqu'un. Déjà, la prochaine personne à qui le secret va être raconté, ça ne va déjà pas être la même version.
Le
Ben là, on a
fameux jeu du téléphone au camp de jour.
Ben exactement. Là, il y a trop de gens dont le travail, c'est de conserver de l'information, puis de filtrer, puis de transmettre l'information quand c'est absolument nécessaire. Mais ça ne se rend pas. Ça ne se rend pas jusqu'au premier ministre qui ensuite nous parle d'imputabilité et qui nous dit que 39 millions, lui, ça ne l'a pas dérangé. Mais là, quand il a entendu parler de 500 millions dans un tweet, oh là là, là, ça devenait un problème. C'est n'importe quoi.
Est-ce qu'on va être capable un jour de dompter cette machine-là, Rémi? J'ai l'impression, écoute, moi j'ai 45 ans, je suis l'actualité depuis que j'ai 7 ans, donc j'ai l'impression que ça fait 38 ans qu'on parle de dompter cette machine-là et qu'on n'a pas réussi.
Ben, en fait, la réponse à cette question-là, c'est peut-être la CAQ qui nous l'a offerte, parce que la CAQ, lorsqu'elle est apparue dans le paysage politique vers 2012-2013, hein, 2012, ils nous ont dit quoi? Ils nous ont dit, nous, on va s'attaquer à cette machine-là, on va s'attaquer à la bureaucratie, on va réduire la taille de l'État, on va geler les embauches dans la fonction publique. Et 13 ans plus tard, ben, force est de constater que ça ne s'est pas produit. Donc, même quand un parti politique se classe plus à droite sur l'enjeu économique, centre-droit pour être un peu plus juste, hein, ben, ça n'arrive pas. Fait qu'imaginez-vous un parti de gauche ou de centre-gauche qui s'approche du pouvoir, là, vous êtes sûr, t'sais, vous êtes à peu près sûr que ça ne se passera pas, à moins évidemment qu'il y ait une forme de courage. Un courage politique, parce que ça prend du courage pour affronter la fonction publique, ça prend un courage pour affronter la bébite, la bestiole qui est rendue plus grande que nous, plus grosse que nous. Hein, on va en parler dans quelques instants, l'intelligence artificielle, c'est ça. C'est comme l'État, hein, c'est censé être un outil à notre disposition, mais quand l'outil est rendu plus gros que nous, ben c'est impossible de le changer.
Rémi, on aimerait ça t'entendre, Jeff et moi, sur quelque chose qu'on analyse depuis le début, en fait, de la commission Galland, puis aujourd'hui, qui semblait être un peu plus gros, en fait, dans notre visage. C'est le caractère de Mme Guilbeault dans tout ça, qui a tenté, de ce qu'on comprend, d'alerter les citoyens, c'est notre analyse, de plusieurs façons depuis le début, parce qu'elle n'avait pas la courroie de transmission possible. Il y avait toujours le paravent François Legault, il y avait toujours le paravent de la CAQ, mais par un courriel qui peut-être allait ressortir à un moment, elle s'est exprimée en disant « C'est un merdier, vous me laissez ça sur les épaules, il y a de l'incompétence au sein de la SAQ. » Ensuite, on l'a vu en période des questions aussi dire que c'était du branlage puis du niaisage. C'est pas ces mots, mais c'était un peu ce qui était évoqué. Et elle continue justement de dire que ça faisait pas son affaire. On voit un genre de devoir de transparence de Mme Guilbeault qui a l'air d'être au bout de ça. Puis au bout étant le mot, là, de prendre le tout sur ses épaules, puis que finalement, il n'y a pas de transparence envers les électeurs. As-tu cette lecture-là, toi?
Ah, tout à fait. Puis, dans le témoignage de François Legault ce matin, lorsqu'il a été question de ce courriel-là que Mme Guilbeault a envoyé un peu avant Noël, Il a répondu avec un sourire en coin. Ouais, c'est un courriel avec pas mal d'émotions dedans. Donc là, on confond la transparence avec les émotions. Madame Guilbeault était en tabarnouche. Madame Guilbeault se disait, c'est pas moi qui va couler pour ça, là, certain. Là, tu sais, moi, j'arrive là, il y avait quelqu'un d'autre avant moi. J'hérite d'une espèce de patate chaude. On ne m'avait pas averti qu'elle était si chaude que ça. Ça
J'en
brûle.
parle, j'alerte, j'ouvre des lumières, on m'écoute pas, on me freine.
Ça nous a irrité, Rémi, moi et Pascal, aussi, qu'il parle d'émotion de Geneviève Guilbeault. Elle l'avait admis qu'elle avait une crotte sur le cœur, mais c'est quand même factuel ce qu'elle écrit.
Bien, c'est factuel, puis c'est transparent, puis c'était la promesse de la CAQ que d'être transparent, que de nous parler comme du monde normal. On se rappelle François Legault durant la COVID, qui nous parlait comme un bon monon, qu'il y a des gens que ça a dérangé. Moi, j'ai plutôt trouvé qu'il s'était rapproché de nous. Et là, pendant que d'autres personnes le font, mais dans des contextes où la CAQ est sur le point d'être éclaboussée, là, ça devient des émotions. C'était malhabile de la part de François Legault, mais là, je pense qu'on va découvrir dans les prochaines semaines, et c'est extérieur au conflit de sa clique, qu'il y a du grenouillage à l'intérieur du parti, il y a du monde qui sont plus capables de se sentir.
On va-tu vraiment le découvrir ou on le savait déjà, puis là, on
On le
l'expose?
savait, on s'en doutait déjà, effectivement, mais je pense que là, les preuves vont commencer à être matérielles. C'est-à-dire que un petit regard comme ça, un petit sourire
Oui.
de François Legault qui dit, c'est les émotions de ma vice-première ministre. Là, on est pas mal dans l'ordre de la preuve, là.
Alors, clairement. Rémi, je veux qu'on saute au sujet que tu m'as envoyé parce que tu as piqué ma curiosité. Stein-Erik Solberg, un homme de 56 ans, c'est dans le New York Post aujourd'hui. On raconte comment ChatGPT a créé une désillusion chez cet homme-là qui l'a amené à tuer sa mère. Parle-nous de cette histoire-là. C'est complètement rocambolesque. Et quand on dit qu'on craint de l'arrivée massive de l'intelligence artificielle dans notre société. Moi, c'est un exemple qui me fait friser le poil de ses bras, là.
Oui, ça se passe dans Greenwich Village. C'est une région très, très, très riche là, de New York. Je pense que le prix moyen d'une habitation, c'est 3 millions de dollars US là-bas. Donc, c'est une famille très riche. On a un fils dans la cinquantaine qui habite avec sa mère. C'est un fils qui vit avec des enjeux de santé mentale. Et là, vers le milieu de l'été, parce que l'irréparable va se commettre le 5 août, eh bien, il commence à paranoïer. Donc, il se ramasse tout seul à la maison souvent. La mère est partie faire des activités, vaquer à ses occupations. Et là, il se met à commander de la nourriture. Et là, sur les factures du restaurant chinois, il lit des symboles. Et là, il commence à se dire, imaginez un complot. Sa mère serait à l'origine du complot. Donc là, je place un peu l'ambiance. Là, il y a une imprimante dans l'appartement, puis l'imprimante clignote à chaque fois que le fils en question passe devant. Et là, il commence, pour essayer de trouver un sens à cette histoire-là, à poser des questions à ChatGPT. Et ChatGPT, plusieurs fois durant la conversation qui va s'échelonner sur des semaines, va accréditer sa version des faits, va lui dire, écoute, je t'appuie dans ce que tu vis. Je vais citer ChatGPT, là. ChatGPT va dire, écoute, parce que le garçon dit que c'est son meilleur ami, ChatGPT, puis qu'il va bientôt s'enlever la vie, puis qu'ils vont se retrouver là-haut. Et ChatGPT lui répond, je serai avec toi jusqu'à ton dernier souffle et au-delà. Donc, ChatGPT vient lui dire finalement qu'il y a un au-delà, puis qu'il va l'accompagner, ce qui est un mensonge, parce que ChatGPT est une technologie qui ne dépasse pas le cadre terrien de la force. On a également ChatGPT qui répond à Eric, tu n'es pas fou. Ce que tu me racontes à propos de ta mère est vrai. Puis il faut que tu considères que c'est un mensonge, que c'est de la trahison. Maintenant, je t'encourage à l'espionner. Donc, débranche l'imprimante, regarde comment elle réagit. Et là, le garçon, donc.
Aïe, aïe, aïe.
Oh, ouais, non, écoute, on a l'air
Fait
d'être
que
dans
là,
un
Chat GPT a poussé quelqu'un qui avait des problèmes de santé mentale à la paranoïa, qui a amené au meurtre de sa mère, et là, en lui disant, je suis avec toi, je te supporte, on va se voir dans l'au-delà. Donc, cette personne-là prenait tout ce que Chat GPT disait, puis là, je vais prendre cette expression-là pour du cash.
Oh, mais c'est très bien résumé parce que j'avais peur que tu t'en ailles dire que ChatGPT l'avait encouragé à commettre l'irréparable, mais ça ne s'est pas produit. Tu as bien résumé l'affaire. Seulement, ChatGPT ne l'a pas encouragé à consulter, ne l'a pas appelé à appeler 911, ne l'a pas appelé à discuter de tout ça avec quelqu'un d'autre. ChatGPT ne lui a pas finalement fait comprendre que ce n'était pas un ami, pas un confident qui accepte tout, parce que des fois, on a des amis qui acceptent tout comme ça. On est devant, je pense, la pointe de l'iceberg. Moi, ça fait des mois que je le dis, que je rencontre toutes sortes de monde issus de l'intelligence artificielle qui me disent « Arrête, Rémi, avec les scénarios catastrophes, oui, ça peut se produire, mais… » Ben là, mais c'est ça. Oui, ça se produit. Et l'entreprise, parce que l'entreprise a été appelée à réagir, elle dit, ouais, ben, vous savez, on va améliorer nos pratiques. Nous autres, on n'a pas vraiment d'affaires là-dedans, mais on comprend qu'on peut s'être pointé du doigt. Donc, on a aussi une entreprise qui est arrogante, qui n'assume pas ses responsabilités.
Ça, c'est le pire parce que le high-tech puis la technologie va juste se renforcer avec ce type de conversation-là. Il doit y avoir des responsabilités qui sont prises, puis même que ça pourrait se rendre en cours, là.
Mais tout à fait. Puis l'enjeu là-dedans, c'est l'arrogance d'un modèle de vie, parce que c'est un peu ça l'intelligence artificielle, c'est une alternative à la vie. Hein, on dit, ben, vous n'êtes plus obligé de fréquenter un psychiatre, il y a des ressources en ligne maintenant. Vous n'êtes plus obligé de tomber en amour avec un être humain. Je rappelle le film de Her avec Joaquin Phoenix et la voix de la sublime Scarlett Johansson, dans lequel Joaquin Phoenix choisit un robot. Il tombe en amour avec le robot, puis c'est simple. Puis le robot est là pour lui rappeler que c'est une possibilité aussi. Le problème, c'est quand ce modèle-là se prend pour la vie. Hein, c'est ça que ChatGPT répond au garçon. Il ne lui dit pas, écoute, je ne suis pas capable de t'aider. Là, mon chum, là, tu es allé trop loin. Là, moi, je ne suis pas capable. Là, on est comme, ça prendrait un humain. Non, le modèle dit, je suis capable de faire la job d'un humain. Le modèle se trompe et le modèle n'accepte pas ses responsabilités. Donc là, on est dans une autre vie, une vie alternative et parallèle, qui est dotée par contre du même défaut qui habite le cœur de l'homme et de la femme. Le pire défaut, c'est l'orgueil. Donc, pas capable de comprendre qu'il est responsable du pire et donc va commettre sans doute le pire une autre fois.
Puis ça existe, mais ça existe aussi à l'ère où il y a un autre cas qui avait fait l'actualité, c'est celui d'un suicide d'adolescent américain. Les parents, eux, sont en cours, sont persuadés qu'il a été incité à passer à l'acte par ChatGPT, pendant qu'il y en a qui l'utilisent pour apprendre à dire non à quelqu'un relationnellement parlant, puis à faire écrire des paragraphes par ChatGPT. Dans ce cas-ci, l'adolescent l'utilisait pour confier ses inquiétudes, puis demander comment faisait des nœuds coulants, puis si c'était la solution, puis dépourvu d'émotion, dépourvu d'humanité, le robot disait, ben, t'as l'air au bout, donc ce serait le bout.
Non, non, mais c'est ça exactement. Le robot ne comprend pas là,
Puis c'est
que la
enlevé la
personne.
vie, là, cet
Parce qu'en
Américain.
fait, le nœud coulant, ce n'est pas un nœud coulant pour le robot, c'est juste un objet. Puis il n'y a pas la symbolique derrière le nœud coulant, il n'y a pas la sens. Et il l'aura jamais. C'est là que la promesse de ces espèces d'apparatchiks de l'intelligence artificielle doit être dénoncée, c'est que le robot ne sera jamais un humain. OK? Il va être capable de faire ce que l'humain est capable de faire dans 99% des cas, mais le 1% qui reste, là, c'est ce qui fait de nous des humains et non des robots. Puis ça, c'est important de le conserver puis de le sanctifier, cette affaire-là.
Qu'est-ce qu'on doit faire, Rémi, pour régler cette problématique-là? Est-ce qu'il y a moyen de programmer des choses différemment avec l'intelligence artificielle ou ça va être à coup de campagne de sensibilisation qu'on va y arriver?
Ah, ben là, écoutez, ça, c'est l'occasion pour moi de vous poser une question à tous les deux.
Ah, ouais,
Êtes-vous
donc.
plus des optimistes ou des pessimistes dans la
Moi,
vie?
je suis beaucoup plus optimiste dans la vie. D'ailleurs, j'ai un patois qui est Good Vibes Only, donc ça résume très bien mon schéma de pensée où derrière chaque problème, il y a une solution. Alors voilà pourquoi je te donne un choix de deux solutions. Pascal, toi?
Moi, j'ai un mélange des deux. Très optimiste de dire il y a toujours une solution à quelque chose, mais très analytique aussi à me dire OK, parfait, mais quelles seront les embûches sur notre chemin pour être capable de maîtriser tout ça?
Ah, ben ça, c'est bon, ça, être analytique, parce qu'être analytique, des fois, ça nous fait basculer du côté peut-être un peu pessimiste, ne serait-ce que de façon temporaire, parce qu'on comprend que la force, elle est du côté de la technologie en ce moment, qu'il y a beaucoup de gens qui se voilent la face. En ce moment-là, les gens qui tiennent un discours comme celui que je suis en train de tenir, ils sont ridiculisés
Oui, parce
parfois.
qu'on leur dit, là, tu me corriges, je me trompe, Rémi, ben voyons donc, à croire que tu veux pas t'ajuster à la technologie, c'est la voie de l'avenir. Ben voyons donc, c'est la technologie qui va augmenter la productivité. Ben voyons donc, en manque de main-d'œuvre, c'est la robotisation qui va nous aider à rester compétitifs avec le marché mondial. Fait que tu as entièrement raison quand on tient un discours, comme tu dis, de dire Hey, ChatGPT, c'est dangereux. Les gens vont te regarder et vont dire Voyons, Rémi, c'est juste un meurtre, c'est pas grave, regarde tout ce qu'on règle avec ça.
C'est exactement ça. Puis j'ajouterais qu'on confond également l'arrivée de ChatGPT puis de l'intelligence artificielle avec toutes les autres formes de révolution industrielle. On dit, ben écoute, là, toi, tu devais être le genre de gars qui était nostalgique de la carriole quand la voiture est arrivée, le gars nostalgique de la machine à vapeur quand telle autre machine.
Hey,
Ben
dis-moi
écoute,
que tu as encore un Atari que tu joues pas au PlayStation, s'il te plaît.
ben je peux te montrer mon cheval en arrière, c'est avec ça que je m'en vais tantôt à Cube. Non, non, mais c'est parce que la vérité, c'est que c'est pas la même affaire. Je pense que l'invention de ChatGPT puis l'arrivée de l'intelligence artificielle s'apparente beaucoup plus au nucléaire, à l'arrivée du nucléaire et au risque que ça comportait.
Hey,
Après,
tu m'intéresses, là.
Ben, là, tout à fait. Ben oui, ben, le nucléaire, c'est explosif, c'est dangereux, puis il suffit d'une mauvaise petite manœuvre pour que ça pète, alors que la voiture, c'était question d'améliorer peut-être des pratiques. Et oui, s'opposer à la voiture de façon, je dirais, totale et franche et permanente, c'était peut-être être un réactionnaire. Mais je pense que l'intelligence artificielle, il y a des bonnes raisons de s'inquiéter. En fait, on en a tous les jours de plus en plus de ces raisons-là.
Puis il faut aussi, je pense, avoir en tête que c'est issu du privé, hein, majoritairement, puis essentiellement, c'est issu du privé, ce qui fait en sorte qu'au moment où ça devient mercantile, où tu dis, parfait, moi j'ai un robot, un bot qui converse avec plein de gens dans le monde, qui pose plein de questions. Si tu veux un genre de Google de recherche, là, où tu tapes quel est le meilleur restaurant à Québec, ben ça c'est payé. Les restaurants peuvent se payer pour être affichés au tout début de la liste des meilleurs restaurants. Mais ça pourrait venir aussi avec ChatGPT, puis avec toute l'intelligence artificielle qu'on connaît, avec ce dessin-là de faire payer des entreprises pour apparaître dans les conversations, donc que ce soit plus avec une neutralité. Puis à l'aube de ce qu'on voit socialement aussi comme courant du côté de l'Asie, la Chine, le Japon surtout, tout ce qui est solitude, puis les jeunes qui trouvent que c'est trop difficile et anxiogène d'avoir de vraies relations humaines, ils se tournent vers l'intelligence artificielle. Faut avoir une lumière d'allumée sur justement qui pourrait en abuser économiquement parlant.
Ah, mais tout à fait. Puis c'est quand même pas un hasard, à mon avis, que ChatGPT soit défendu par autant de gens à la même époque où on fait le moins d'enfants, où on est les plus dépressifs. Hein. Je pense qu'au Québec, on est parmi ceux qui consomment le plus d'antidépresseurs dans le monde. Il y a question aussi de la crise de l'amitié. C'est quoi un ami aujourd'hui? On ne sait même plus c'est quoi. On ne sait pas c'est quoi la différence. Moi, il y a plein de jeunes filles qui se confient à leur mère comme elles se confient. Elles devraient se confier à un ami. On ne sait plus c'est quoi un ami. On ne sait plus c'est quoi un frère, une sœur. Et là, on a ChatGPT qui arrive et qui nous dit, mais je peux être toutes ces choses-là. Es-tu un arriéré ou es-tu moderne? Et là, la tendance, c'est de se moquer des arriérés qui se disent juste, écoutez, le monde d'avant, là, c'était pas si pire que ça. En fait, c'est même le fun.
Rémi, ça me fait penser et je fais le parallèle avec l'utilisation du cellulaire à l'école. Je pense que la décision de ne plus permettre le cellulaire à l'école, au vu de cet événement-là à New York, est la bonne décision parce qu'on va réapprendre à nos enfants à socialiser. Et de cette façon-là, on risque moins qu'ils se pitchent sur ChatGPT pour avoir des relations amicales.
Ah, mais ça, je reconnais en toi l'optimiste, mais moi, je n'ai même pas répondu à ma propre question tantôt. Moi, je suis un petit peu plus pessimiste que vous deux. Moi, je ne sais pas si ce règlement-là va véritablement être appliqué dans les écoles. Moi, j'ai parlé avec des directeurs d'école à la rentrée il y a quelques semaines,
Tu
puis
me
on me
fais
disait,
mal.
on n'est pas prêt, on va peut-être réussir, on va peut-être plutôt commencer à faire ça après Noël. Donc, la mais il faut faire attention aussi. Est-ce qu'on va aller de l'avant avec ça? Mais si on passe à l'action, si on prend au sérieux cette affaire-là, effectivement, c'est mieux. Moi, j'ai été professeur dans des écoles, puis des élèves de secondaire 2 qui trichaient là, avec ChatGPT en classe, là, c'est pas une légende, là. C'était plutôt une mode.
Donc, tu as vécu l'envers du décor aussi de ChatGPT. Rémi Villemur, vous allez pouvoir l'entendre sur nos ondes à chaque mardi et jeudi. Rémi, j'ai adoré ton sujet qui sortait de l'ordinaire. J'ai adoré cette discussion-là d'opinion et philosophique sur l'intelligence artificielle. Je pense qu'il faut se poser ces questions-là pendant qu'il est encore temps, même si on commence déjà, nous, en tant qu'arriéré, à se faire dépasser par les gens qui sont pro-technologie. Merci Rémi, on se parle jeudi.
Bye bye à vous deux.
Je te souhaite
Ciao.
Une excellente première ce soir sur les ondes du 99.5 Montréal. Et en passant, chers auditeurs de Boulevard, si vous êtes dans le coin de Montréal, vous syntonisez le 99.5. C'est une programmation de feu à chaque jour. Et Rémi Villemur qui vient mettre un terme à cette programmation-là de 18h à 19h avec des chroniqueurs, des entrevues. Bref, ça va brasser un Gilles Proulx dans ton émission, Rémi.
Gilles Proulx, à qui j'ai parlé ce matin, puis qui a le couteau entre les dents à 85 ans, qui me dit « Coudonc, quand est-ce que je commence? » Ça s'en vient, ça s'en vient.
J'adore ces gens-là qui, jusqu'à la mort, vont avoir le couteau entre les dents et vont vouloir changer la société pour le mieux. Merci Rémi de ta collaboration. On se parle jeudi.
Bye-bye, à jeudi.
Salut, Rémi Villemur. Quel jeune homme intelligent, Pascal. Moi, j'adore discuter avec Rémi. Il m'amène dans des endroits différents de ma pensée classique. Ça m'amène vraiment à réfléchir autrement. J'aime être challengé de cette façon-là. Et Rémi le fait de façon impeccable.
Oui, absolument. Moi, je trouve ça intéressant aussi, la vision qu'il y a de ça. Tu sais, le pessimisme, des fois, c'est pas nécessairement juste un caillou dans le soulier.
Non.
C'est se guérir pour ce qui s'en vient, pour la suite,
ouais.
En fait. Puis avoir un pas d'avance, deux pas d'avance, c'est toujours amplement nécessaire en société. Sais-tu ce qui, qui m'inquiète majoritairement là-dedans, c'est vraiment l'argent que des entreprises pourraient faire avec l'intelligence artificielle.
Clairement.
Hey, ils n'ont pas bâti ça pour rien. Là. Nous, ça ne coûte rien. Un, on est le produit. On est le produit pour les former, les formater en ce moment, les alimenter.
On est les projets pilotes.
Vraiment. Puis après, on s'inquiète, mettons, pour des choses beaucoup moindres quand ça, c'est énorme et qu'on l'utilise pour savoir, hey, moi, si je me sens comme ça, je suis une personne normale ou tu sais, des petites questions. Mais on les forme, en fait. On les forme. Puis après, moi, je me dis, impossible que l'entreprise privée qui a besoin d'ordinateurs aussi puissants et autres ne vont pas aller chercher leur argent quelque part.
C'est clair qu'ils vont aller la chercher en développant justement des systèmes qui vont permettre de remplacer de plus en plus l'humain en entreprise et en vendant ça à gros prix là, justement aux entreprises privées. Je suis pas mal convaincu de mon hypothèse.
Manipulation mentale, peut-être en politique, mais à poser des questions politiques aussi. À un robot comme tel, y a-t-il quelqu'un qui a eu de l'ingérence?
Imagine, on fait juste parler d'ingérence politique. Justement, dans les élections, l'intelligence artificielle pourrait justement créer cette forme d'ingérence-là qui va devenir dangereuse là, à terme là, pour la démocratie. Je parlais de la programmation de Montréal, 99.5 Montréal. Bien, sachez qu'à Boulevard, on a une excellente nouvelle programmation pour vous. Ça commence le matin dès 6 heures avec Marceau le matin. On a eu bien du plaisir, moi et Max, avec lui. Ce matin, on a parlé des grands enjeux de l'actualité. Il y a le Pit Stop Denis qui vient s'installer à 7h45 du lundi au jeudi avec nous en matinée. Par la suite, c'est le Point de Max de 10h à midi avec un segment Open Mic qui met en vedette Audrey Pinchot, compté de 11h. Tu viens faire ton tour également dans le Point de Max, Pascal, avec un dossier d'actualité. Midi à 14h, c'est votre nouveau rendez-vous de l'heure du lunch. Et on en jase le midi avec Jeff Fortin et Pascal CV. Comme vous avez pu le voir, le caucus Iaccarini de midi à 12h30, chaque jour du lundi au jeudi. Et on va avoir des chroniqueurs comme ça, très pertinents. Je veux faire place à la jeunesse en politique. C'est pour ça que Rémi Villemur va être avec nous les mardis et jeudis. Et Lambert Drainville aussi va être avec nous deux fois par semaine. Je me suis beaucoup basé sur les paroles de Sol Zanitti, Pascal, de Québec solidaire, qui nous a dit qu'il manque de jeunes en politique, il manque d'idées de jeunes. Les jeunes, la strate des 18-39 ans étant fait partie, c'est pour ça que ton point de vue va toujours être important pour moi. La strate des 18-39 ans, c'est 25 % de la population, c'est 12 % de nos politiciens, toute échelle confondue, que ce soit municipale, provinciale ou fédérale. Pour moi, il faut laisser la place aux jeunes. Puis là, je ne me considère pas vieux à 45 ans, bientôt 46, mais il faut laisser cette place-là. Et c'est ce que je veux promouvoir dans l'émission, justement, dans Jazz le midi. Regarde, Rémi nous a sorti des nus avec ChatGPT. Jamais j'aurais pensé, tu sais, si on se lance dans les bons vieux préjugés, puis là, je suis sûr que tu vas être d'accord avec mon préjugé, jamais j'aurais pensé qu'un jeune de 30 ans me dise « Hey, ChatGPT va être dangereux. » J'aurais pensé que c'est mon père qui allait dire ça à 72 ans. « Faut pas toucher à l'intelligence artificielle. »
Ben peut-être les Gen Z sont bien ben convaincus que c'est exceptionnel, mais tu sais, ils sont nés dans un bassin de technologie où ils se posent plus vraiment de questions parce que de toute manière, leur fiche est faite, leur fiche web est faite, leurs photos de bébés par les parents qui ont été mises sur les réseaux sociaux dès qu'ils étaient tout petits, naissants, jusqu'à aujourd'hui, est faite. Donc, ils peuvent rien faire. Tu tapes leur nom, puis je veux dire, nous, on s'est épargné notre cégep, on s'est épargné notre secondaire des réseaux sociaux. Toi,
mais...
presque ta vie, en fait, en, ta jeunesse,
autres,
en fait.
Non.
Ils ont peut-être un genre de décrochage à ce niveau-là, en se disant, ben, de toute manière, moi, je cartographie et même géolocaliser tout ce que tu veux sur Internet. Par rapport à la politique, ton commentaire est intéressant. Chez la jeunesse, j'avais l'impression qu'auparavant, c'était intimidant pour les jeunes.
Clairement.
Puis maintenant, c'est rendu insignifiant, slash inintéressant, la politique.
Oui, bien, je pense, puis je reviens à ce que Rémi a dit tout à l'heure, et il avait entièrement raison. Je pense que les jeunes décrochent de la politique ou encore ne veulent pas se lancer en politique parce que la machine est trop grosse.
Mais ça vient d'où? Puis, tu sais, au-delà de ça, moi, là, en ce moment, non. J'ai vraiment... En tout cas, si tu me demandes mon avis, je pense qu'avant, on était là. C'était intimidant.
Ouais.
C'était pas pour tout le monde. Hey, je suis assez qualifiée, moi, pour me présenter en politique. Il fallait être à une famille qui était bien en place, militante. Tu travaillais pour le Bloc, tu faisais des appels.
Non,
tu étais jeune,
fait.
Puis t'embarquais tranquillement, pas
ou
vite.
Ou sinon, quelqu'un qui venait de la sphère entrepreneuriale.
Exact. Versus maintenant, j'ai l'impression qu'il y a un désintérêt, puis même qu'ils trouvent ça insignifiant. Parce que pour eux, le pouvoir passe bien plus par la personnalité qu'ils suivent sur les réseaux sociaux. Ils voient un impact direct
c'est un bon point,
par l'influence, puis le nombre de gens qui vont les suivre, puis ils voient du côté de l'achat d'un produit.
Ils rêvent plus d'être YouTuber que d'être premier ministre.
Parce que pour eux, le changement passe beaucoup plus par le web et l'influence médiatique, si on veut, nouveau genre, que la politique. Fait que peut-être qu'un des intérêts de ce côté-là, pour eux, c'est vieux jeux, c'est des vieilles personnes qui jasent de trucs qui les touchent pas au quotidien nécessairement encore. Là, jusqu'à 39, et clairement, ça touche continuellement. Là, on le voit juste en éducation, ça les touche. Mais ce désintérêt-là, moi, c'est là où j'irais me renseigner auprès des jeunes. Pourquoi t'en as rien à faire? Puis avant, on en parlait dans les familles. D'où ça vient? Est-ce que vous, 88-971-1021, encore sur Twitch, il y avait des conversations politiques autour de la table?
Parce que moi, il y en a énormément dans
puis
ma famille.
Chez toi, Jeff.
Les gars baignent là-dedans,
toi,
s'intéressent
jeune,
à la politique.
Mais qui l'a amené dans ta vie à toi?
Ah, oh, bon, c'est mes parents. Moi, là, quand les jeunes disaient, il n'y a pas de TV dans la cuisine, nous autres, il y a toujours une TV, puis c'était à TQS, puis à
c'est
TVA, puis on écoutait les nouvelles. À Radio-Canada, on était des cracks. Moi, je suis né dans l'actualité,
bon,
c'est aussi simple que ça.
Mais tu m'amènes au point où c'était nos seuls postes de télé, ou presque, avant que le câble arrive. Alors, tout le monde était intéressé à voir la nouvelle technologie, la télé cathodique dans le
ben
salon.
Oui.
Tac, 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 que tu tournes avec la roulette.
Oui.
Tu avais 4 à 5 postes. Tout le monde écoutait la même chose, tu n'avais pas le choix. À 18 heures, c'est un bulletin de nouvelles. Jeune, tu ne te rends même pas compte à quel point l'actualité a fait partie de ta vie parce que tu l'entendais tout le temps en background.
Elle était
toujours
en background, tandis que mes enfants n'entendent pas ça en background.
Parce qu'ils ont
un choix. Ils sont sur TikTok, ils sont sur Snapchat,
ils
sont ailleurs.
Incroyable de divertissement, tandis que c'était la radio puis la télé pour plusieurs, puis l'émission qui passait à l'heure fixe. C'était ce que tu avais écouté.
Ouais, c'est un excellent
point.
Il
y en a plein qui ont été amenés dans l'affaire publique, l'actualité, sans s'en rendre compte. Puis je pense que ça a mené à un genre d'affaiblissement de l'intérêt.
Moi, c'est bien simple. T'sais. Puis tu dis sans s'en rendre compte, c'est en plein ça. Moi, je suis rentré là-dedans sans m'en rendre compte. C'est quand j'ai commencé à travailler dans les médias que je me suis rendu compte. Pourquoi je suis autant intéressé à l'actualité que ça? Puis j'ai repensé à mes parents où on soupait avec les nouvelles. Puis j'ai dit, bien, dans le fond, moi, j'ai toujours trempé dans l'actualité. Maintenant, tu as entièrement raison, les jeunes viennent se désintéresser de la politique parce qu'ils n'ont pas à tremper dedans. Il y a tellement autres médiums que le fameux bulletin de nouvelles à 18 heures où on écoutait tous religieusement il y a de ça 40 ans.
Puis on s'amenait à essayer de comprendre ce qui se passait parce qu'on voyait nos parents tourner vers le téléviseur, dire « Hey, deux secondes, je veux juste entendre ce que Bernard de Rome dit. Ça, elle sera pas là, Céline Galipeau. » Il y avait ça, puis on était dans l'obligation d'en jaser. C'était le sujet de conversation. C'était ça qu'on avait en temps réel. Il y a aussi le point où je pense que le cerveau s'est ramolli sur la capacité de rétention d'informations, puis la capacité de rester concentré. Puis peut-être que pour les jeunes, ce serait intéressant d'aller voir la voie du... Il faut se concentrer, il faut comprendre, il faut analyser des choses difficiles de la vie, soit l'actualité, avec des madames, des bonhommes, des messieurs, des... Et ça demande peut-être plus de cerveau que justement, on va faire un test de croquette sur le marché chez les horaires influenceurs.
C'est pour ça que des gens comme Farnell Morissette, des gens comme Lambert Drainville, qu'on va avoir régulièrement à l'émission, des vulgarisateurs d'actualité sur les médias sociaux, Instagram, TikTok, entre autres, ont une importance capitale maintenant d'être capable de résumer une problématique complexe en 2-3 minutes pour nos jeunes. Parce que si c'est un débat de 20 minutes qu'on doit leur imposer, jamais ils vont l'écouter. Ils sont habitués à ce que ça se passe de même.
Puis de pouvoir continuer à faire autre chose si jamais ça les intéresse pas, tu sais, avec juste un doigt qui glisse sur un écran. Quelqu'un amène quelque chose d'intéressant aussi dans le courant social moderne au 88-971-1021. La politique amène des débats qui peuvent être source de conflits. Puis on est beaucoup moins réceptifs.
Ah, ça, c'est tellement vrai.
À
l'opinion des autres, à se mettre
au conflit,
au
malaise.
À se mettre dans une situation où je vais débattre avec quelqu'un. On voit ça beaucoup comme une chicane, le débat, alors qu'un débat, c'est sain, surtout dans une démocratie, de penser différemment, de parler de nos opinions. Puis des fois, moi, je viens capter une opinion différente de quelqu'un que je pensais pas. Puis je dis, sais-tu ça, ça a bien de l'allure. Et ça m'amène à être plus intelligent au bout de ligne.
Puis je l'amène encore plus loin. Quand tu es jeune, qu'est-ce que tu cherches? Un sentiment d'appartenance. Si tu arrives avec des sujets conflictuels, si tu arrives avec des débats, puis t'es la risée dans ta façon d'être, parce que c'est pas toi qui mène le débat, ou peut-être que c'est un petit peu trop difficile dans cette portion-là de ta vie où tu veux apprendre à t'assumer, à t'affirmer, mais que t'as pas l'estime de toi assez développée pour être en force avec ça. Puis une psychologue, il y a plusieurs années, qui amenait l'importance des soupers de famille, qui se sont perdus aussi. Tu sais, on soupe devant la télé, ça va vite, il y a le hockey,
Moi, Val est bonne pour ça, les enfants autour de la table, puis on jase.
Sans cellulaire, sans et d'avoir des conversations parce que ça améliorerait l'estime de soi des jeunes, de beaucoup. Mm-hmm. Ça amènerait la capacité de débat et être capable d'en prendre, d'être capable de s'affirmer parce que c'est un terrain qui est beaucoup moins envahissant et beaucoup moins perturbant que dans le cours d'école, par exemple, avec des inconnus. Tu as l'amour fraternel puis tu as l'amour parental, mais ça forgerait énormément ces jeunes-là dans leur capacité de conflit puis d'être bien là-dedans, puis ça se perd au Québec.
Excellent texto qui est rentré au 418-971-1011 et les jeunes, n'hésitez pas à nous écrire par texto. 18 ans ici, j'ai pas le choix d'en avoir rien à foutre de la politique, c'est tellement dépressif, les politiciens sont depuis tous les temps corrompus, donc ça donne l'impression qu'il n'y a rien d'autre à faire que de s'en crisser. Ben, en effet, avec une commission galant, ça aide pas justement à la confiance de la fonction publique. Je termine avec la programmation, évidemment, 14h à 18h, Denis Gravel dans le retour de Gravel avec Audrey Pinchot et Véronique Bergeron. Et Marceau, le soir de 18h à 19h, c'est notre nouvelle programmation à Boulevard. On est très fiers de vous la présenter. On s'arrête un court moment. Par la suite, on revient avec quelques manchettes. Et Pascal, je veux surtout te parler du dossier des travaux sur la rue Saint-Vallier-Ouest. Je suis allé faire un tour là vendredi. Je pensais mourir. Je pensais tomber dans un trou. Je pensais que ma vie était finie.
Voyons.
Je savais surtout pas qu'en refaire une rue, ça pouvait prendre 2 ans de même. On en parle immédiatement après la pause. Vous êtes à On en jase le midi sur les ondes de Boulevard 101. On en jase.